philo. L'heure philo sur France Inter en compagnie de Marilyn Maezo, philosophe de son état qui travaille sur l'essentialisme et la philosophie politique contemporaine. Henri-Marc Mutel est comme à l'accoutumée à la réalisation, Chantal Le Montagnier a préparé l'émission, Djoubaka en a choisi les disques et Maxime Goudard est à la console.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir Marilyn Maezo.
Bonsoir.
Vous signez un livre aux éditions de l'Observatoire intitulé « La petite fabrique de l'inhumain ». Qu'est-ce que l'inhumain, par exemple, par rapport au monstrueux ? Est-ce que c'est la même chose ?
Dans le langage courant, on a tendance à les utiliser comme des synonymes. Et j'ai essayé de montrer pourquoi je considère que ça n'est pas tout à fait le cas. Pour moi, la différence principale entre les deux, c'est que le monstrueux, comme l'étymologie du mot l'indique, c'est quelque chose qui se montre, quelque chose qui saute aux yeux, quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu. Alors que l'inhumain, et c'est probablement ce qui fait qu'il est peut-être plus dangereux et plus effrayant que le monstrueux, l'inhumain, c'est quelque chose qui peut se cacher, y compris chez la personne la plus au-dessus de tout soupçon en apparence, du monde. Et ce qui distingue en fait les deux sur un plan philosophique, c'est que le monstrueux, généralement, les raisons qui l'amènent à commettre des actes qui sont eux-mêmes monstrueux sont connues. Par exemple, si on prend, un monstre comme le monstre de Frankenstein, tout ce qu'il peut faire, on va forcément l'attribuer aux conditions de sa création et puis à l'horreur que ça représente pour lui, de pas savoir vraiment qu'il est une créature, etc. Quasimodo, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est difforme, c'est quelqu'un qui est considéré comme finalement un homme inachevé par son père adoptif lui-même. Donc, si vous voulez, dès qu'il y a un crime monstrueux qui est commis, l'explication de ce crime est simple, claire et donc rassurante.
Et ça interroge notre identité, le monstrueux, ce que ne fait pas l'inhumain.
Le monstrueux, ça interroge notre humanité d'une manière que je pense acceptable. C'est-à-dire que ça interroge, par exemple, la question de ses limites, la question de sa fragilité. Par exemple, Quasimodo, c'est quelqu'un qui est né comme ça. Donc, ça sous-entend, et on le sait, que le monstrueux, c'est une sorte de dérapage de la nature qui peut arriver à n'importe qui. Mais donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait réfléchir et qui stimule l'imagination depuis des siècles. En revanche, l'inhumain. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui suscite l'interrogation vis-à-vis de notre humanité, mais c'est une interrogation qui est trop grande pour nous. Le problème avec l'inhumain, c'est qu'on fait face à un crime qui est inexplicable, parce que l'énormité du crime bute sur la médiocrité du criminel.
Un exemple,
l'exemple qu'on peut prendre avec Hannah Arendt. Son concept de la banalité du mal, c'est ça qu'il est censé désigner, c'est le contraste, enfin, c'est même plus un contraste à ce niveau-là, c'est un fossé monumental entre l'énormité du crime nazi et puis ce qu'elle appelle la médiocrité des petits fonctionnaires de l'entreprise ou l'industrie de la mort de masse, qui sont vos voisins, des hommes comme tout le monde, sans envergure, sans grande ambition. Si vous voulez, ce ne sont pas des monstres, justement. Ce ne sont pas des gens qu'on pourrait repérer parmi une foule. Et donc, ce qui, dans ce cas-là, interroge, mais c'est une interrogation qui est trop grande pour nous, une interrogation qui est tellement vertigineuse qu'on n'arrive pas à la faire et qu'on préfère l'esquiver, c'est de se dire qu'en fait, l'inhumain, c'est quelque chose qui est une potentialité en nous. C'est quelque chose qui peut frapper n'importe qui si on n'y prête pas garde. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on parle d'inhumain dans ce cas-là. C'est que inhumain, c'est un terme qui exclut de l'humanité. C'est une façon de dire, cette personne, ce criminel-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Comme dans l'exemple que je prends dans le livre, qui est l'exemple du procès de Meursault.
Fictif.
Oui, c'est un personnage fictif qui est accusé, à raison, d'avoir tué un homme arabe sur la plage. Mais juger le crime en lui-même n'est pas suffisant, parce que justement Meursault n'a pas le portrait type du criminel. Il a aucun passif criminel, c'est même monsieur tout le monde, il est d'une banalité confondante. Et donc c'est inexplicable que quelqu'un d'aussi banal, d'aussi monsieur tout le monde, pourrait-on dire, puisse commettre un tel crime. Et donc le procureur se sent obligé de lui fabriquer ce qu'il appelle une âme criminelle, c'est-à-dire de le déshumaniser de manière à dire au reste de la société, ne vous inquiétez pas, c'est l'exception qui confirme la règle, il faut le supprimer, voilà. Il faut le supprimer pour rétablir l'ordre de la causalité normale.
C'est le soleil qui l'a poussé à commettre son crime. Meursault, c'est l'étranger. L'étranger, c'est Camus. Albert Camus, sur lequel vous vous appuyez, Marilyn Maezo, pour étayer votre raisonnement.
Ceux qui n'ont pas exigé un jour au moins la virginité absolue des êtres et du monde, tremblé de nostalgie et d'impuissance devant son impossibilité, ceux qui, alors sans cesse renvoyés à leur nostalgie d'absolu, ne se sont pas détruits à essayer d'aimer à mi-hauteur, ceux-là ne peuvent comprendre la réalité de la révolte et sa fureur de destruction. Mais les êtres s'échappent toujours, et nous leur échappons aussi. Ils sont sans contour ferme. La vie, de ce point de vue, est sans style. Elle n'est qu'un mouvement qui court après sa forme sans la trouver jamais. L'homme, ainsi déchiré, cherche en vain cette forme qui lui donnerait les limites entre lesquelles il serait roi, qu'une seule chose vivante est sa forme en ce monde, et il sera réconcilié.
Albert Camus, que vous écoutez avec beaucoup d'intensité, Marilyn Maezo, la vie est sans style, c'est incroyable de dire ça, et l'homme face à la virginité du monde, dont parle Albert Camus. Vous avez sûrement un commentaire à apporter.
Oui, la virginité du monde et aussi sa tendre indifférence, peut-on dire, dans une autre formule. C'est le constat, disons, qui sera exprimé différemment dans le mythe de Sisyphe, que le monde n'est pas à notre mesure, le monde n'est pas fait pour nous, le monde se fout un peu de notre existence, que nous soyons là ou pas, il n'en sera pas modifié. Et l'existence humaine, de ce point de vue-là, et l'histoire de cette tentative, souvent avortée, toujours à recommencer, de réconciliation avec cette vérité. Comment faire pour habiter un monde qui n'est pas habitable en soi, qui n'est pas fait pour qu'on l'habite? Comment faire finalement pour l'aménager, pour le rendre humain, pour l'humaniser, pour lui donner un sens qu'il n'a pas, de manière à rendre la vie sur Terre supportable?
Pourtant, c'est quand même ce qu'on essaye de faire depuis la nuit des temps, non?
C'est justement ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça que je parle de tentative toujours à recommencer, parce que ces tentatives n'empêchent pas ce qui est théorisé, notamment dans le mythe de Sisyphe, à savoir l'expérience de l'absurde. Le problème, c'est que la manière que l'on a d'essayer de résoudre ce dilemme tragique, souvent, c'est de chercher une esquive. Et l'esquive la plus connue dans nos sociétés, c'est l'esquive de ce qu'on pourrait appeler avec Pascal le divertissement. Le divertissement au sens de diversion, on cherche à s'occuper, à accaparer notre attention sur 1000 activités, de manière à ne pas avoir à réfléchir, justement, à l'inexistence d'un sens donné au monde, à notre propre existence. Et vient un moment, dit Camus, où la routine métro-boulot-dodo se fissure et où l'expérience de l'absurde surgit. Et c'est à ce moment-là qu'on est mis face à la nécessité de trouver un sens à l'existence, en tout cas de lui en donner un. Et ça, c'est vertigineux. C'est finalement tout le défi que se donne Sisyphe en poussant son rocher inlassablement sur la même pente.
Et d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse, parce que comment expliquez-vous que Camus a longtemps été regardé un peu de travers par les philosophes? Parce que là, vous parlez du mythe de Sisyphe, mais on a beaucoup plus pris Camus pour un très bon écrivain que pour un philosophe avéré.
Oui, ça a été la règle pendant très longtemps, et dans une certaine mesure, ça l'est encore pour certains.
Mais pourquoi?
Sartre, c'est d'abord un philosophe, ensuite un écrivain, et Camus, ça serait l'inverse. Bon, tout ça est très schématique. L'une des raisons qu'on m'avance souvent, c'est de dire, mais quand même, Camus lui-même l'a dit, je ne suis pas philosophe. Oui, je ne suis pas philosophe, mais il faut continuer la citation. Je ne suis pas philosophe, dit Camus, parce qu'il ne croit pas suffisamment à la raison pour croire au système. Donc en réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas philosophe, c'est qu'il n'est pas philosophe si la philosophie, c'est la philosophie systématique, sont les grands systèmes type hegélien, kantien. Lui, il a une approche de la philosophie qui finalement est assez proche de celle de Kierkegaard. C'est une philosophie qui critique justement des systèmes philosophiques, de leurs limites et puis de leurs potentielles dérives, parce que la croyance en la raison peut produire comme dérive, et au XXe siècle notamment, on a pu le voir. Donc Camus, en fait, le problème, c'est qu'il est arrivé à un moment où, dans le paysage philosophique de l'époque, la philosophie était avant tout incarnée par des gens comme Sartre. Donc si votre modèle de la philosophie, c'est Sartre, forcément Camus ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Et puis l'autre raison, contre laquelle, pour le coup, je me bats depuis des années, c'est la réputation que certains, Sartre en premier lieu et les Sartriens après lui, lui ont collé à grand renfort de Albert Camus, philosophe pour classe de terminale, qui en soi n'est pas une insulte au passé. passage, hein, mais qui consiste à montrer que
c'est l'enseignante qui parle.
Voilà, voilà. Je suis philosophe pour classe de terminale. Je ne vois pas en quoi c'est infamant. Mais surtout, si vous voulez, quand vous lisez ce livre et quand vous lisez ce que Sartre dit de Camus, vous vous rendez compte que très souvent, c'est basé sur des déformations, voire carrément des mensonges vis-à-vis de ce qu'il pense. Je prends un seul exemple. On colle à Camus depuis toujours une réputation de non-violent béat. Sartre le fera jusqu'à un an après sa mort, la mort de Camus, dans sa préface aux Années de la Terre de Frantz Fanon, en disant « Ils ont bonne mine les non-violents, ni victimes ni bourreaux ». C'est une référence au titre d'une série d'articles de Camus dans le Combat. Parce que Camus, il le disait lui-même, Camus, dans sa première réponse à Emmanuel Dacier de la Vigerie, il disait on me colle une image de non-violent pour les besoins de la polémique. J'adore cette formule. Déjà, à l'époque, si vous voulez, il avait conscience de cette mécanique-là. Il dit « Alors que moi, j'ai toujours dit que mon problème n'est pas la violence, les années de résistance m'ont démontré qu'elle était parfois inévitable. Mon problème, c'est la violence confortable. J'ai horreur de ceux dont les paroles vont plus loin que les actes, et je ne m'arrêterai de mépriser quelques-uns de nos grands esprits que quand ils tiendront eux-mêmes les fusils de l'exécution. » Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que cette citation, si vous voulez. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Camus a été un petit peu exclu du champ de la philosophie légitime, pourrait-on dire, c'est aussi parce que des gens qui ne l'avaient lu qu'en travers ont décrété que sa pensée était avant tout littéraire et n'était pas digne de ce qu'on appelle véritablement la philosophie. Et je trouve que c'est assez paradoxal parce que c'est des gens qui n'ont pas fait l'effort intellectuel de vraiment analyser sa pensée, qui se permettent de juger qu'elle n'est pas suffisamment noble pour être qualifiée de philosophique.
Et juger sans cesse, sans cesse, sans cesse, est-ce que c'est pas un petit peu une part d'inhumanité qui nous effleurerait ?
Oui, mais d'ailleurs c'est drôle parce que Camus dit au tout début de L'Homme révolté, respirer c'est juger. Il a conscience du fait qu'on ne peut pas s'empêcher de juger, mais en soi le problème n'est pas de juger, c'est de juger hâtivement. C'est de vouloir juger avant de comprendre. Et ça comporte, disons, un ferment d'inhumanité, parce que l'acte de juger sans comprendre, c'est un acte qui consiste à condamner avant tout. Juger, que ce soit au sens de jugement intellectuel ou de jugement judiciaire, ça veut dire ranger quelqu'un dans une case, décréter qu'il est comme ci ou qu'il pense comme ça, sans avoir pris le temps de s'en faire une idée fondée et donc d'en avoir le cœur net. Et ça, c'est la porte ouverte à la déshumanisation, parce que on n'est plus face à des individus dans leur singularité, on n'est plus face à une pensée dans sa singularité, mais on est face finalement à des pions interchangeables qu'on peut ranger dans des bocaux hermétiques.
Laura Cahen sur France Inter, désarmer ce que vous n'êtes pas, Marilyn Maizo.
J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés, le temps s'écoule. Et moi, je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'emporter. Le vent chante.
Je veux m'emporter.
Laetitia Martin.
Marilyn Maezo est ce soir notre invitée. Elle publie un livre intitulé « La petite fabrique de l'inhumain » dans lequel il est beaucoup question, on en a déjà parlé, de la pensée et des romans et de la philosophie d'Albert Camus. Jean-Louis Trintignant sur Albert Camus.
Dans l'homme révolté, Camus, bravant les modes et réhabilitant l'éthique, s'oppose résolument à la philosophie qui justifie le meurtre au nom d'une histoire divinisée. Les intellectuels de gauche parisiens, alors adorateurs de l'histoire, n'y voient qu'un angélisme suspect et apolitique. Une violente critique du livre paraît dans les temps modernes, dirigée par son ami Jean-Paul Sartre. Surpris, blessé, Camus riposte. Sartre décide alors de rompre.
On voudrait l'écouter deux fois, au moins ce son, tant la voix de Jean-Louis Trintignant est extraordinaire.
Et ce qui est surprenant, c'est qu'en plus, sa diction, son intonation, et même en un certain sens, sa tessiture, me font penser à celle de Camus.
C'est vrai.
Un peu, c'est fou. Mais là, en l'occurrence, ce qu'il dit sur l'homme révolté, sur la fameuse querelle des temps modernes, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui, malheureusement, est à la fois trop connu et trop méconnu, parce que tout le monde sait que ça a eu lieu, parce que pour le coup, ça y est, il y a de la baston, donc c'est quelque chose qui intéresse. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose qui ferait le buzz. Mais souvent, on ignore le détail de ces échanges par lettres interposées, du contenu des critiques des uns et des autres. Ce qu'on trouve, dans la lecture de Sartre, je mets des guillemets à lecture, parce que de son propre aveu, il l'avait lu en diagonale, c'est-à-dire pas vraiment. Ce qu'on trouve dans la critique de Sartre et de Janson avant lui, parce que c'est Janson qui en a fait la recension pour les temps modernes, c'est la thèse selon laquelle la révolte que Camus expose dans L'homme révolté est une révolte abstraite parce que métaphysique et donc à des années-lumière de la seule vraie révolte qui est la révolte concrète contre l'injustice des hommes qui la subissent, donc la révolte économique, la révolte politique. Sartre dira notamment à Camus, en gros, vous êtes bien gentil avec votre révolte existentielle face à la condition humaine, mais en disant ça, vous oubliez que la condition humaine n'est pas la même pour nous, les bourgeois, que pour les ouvriers dans leurs usines. Ils n'ont pas la même manière, si vous voulez, de vivre le poids du rocher de Sisyphe. J'ai envie de dire que c'est une évidence que les conditions sociales, matérielles ne sont pas les mêmes pour tous, mais ça n'invalide en rien ce que dit Camus, déjà parce que Camus est bien passé pour le savoir, n'étant lui-même pas issu d'un milieu bourgeois, il a vu ce que c'était de première main, il a vu ce qu'était la misère, il a grandi dedans.
Je rappelle qu'il avait une mère qui ne savait ni lire ni écrire.
Oui, et puis qu'il a grandi dans les quartiers pauvres d'Algérie, dans un milieu ouvrier, donc il savait très bien ce à quoi Sartre fait référence. Simplement, ce que Camus essaie d'expliquer dans L'homme révolté, c'est que au-delà de ces divergences réelles de conditions matérielles, de conditions sociales, de conditions économiques, il y a une unité de la condition humaine qui se retrouve dans le geste de révolte. Et c'est paradoxal, en fait, de reprocher et de se déconnecter de la réalité de ce qu'est l'oppression à quelqu'un qui pense le phénomène de révolte à partir de l'exemple de la révolte du maître contre l'esclave. Parce que pour le coup, c'est l'oppression par excellence. Et ce qui est écrit dans L'homme révolté, contrairement à ce qu'en pense Sartre, ça n'est pas que... Parce que Sartre, en l'interprétation qu'il en fait, c'est « vous avez pensé la révolte à partir de l'expérience de la résistance », ce qui est vrai. Sauf que l'expérience de la résistance, c'était un moment historique qui n'était possible que dans certaines conditions. Il fallait une union sacrée pour lutter contre un ennemi commun. Sauf que maintenant que cet ennemi a été abattu, si vous voulez, la lutte des classes continue. Les injustices n'ont pas été supprimées. Et ce que Camus... en fait, essaye de montrer avec L'homme révolté, c'est que même la lutte des classes, même la lutte des classes populaires ouvrières contre les classes qui les oppriment, ne peut pas se penser autrement que selon le modèle qu'il décrit au début de L'homme révolté. C'est-à-dire que quand quelqu'un se révolte contre quelqu'un qui l'opprime, ce qu'il se passe, c'est qu'il le fait au nom du sentiment d'une dignité que lui et le maître ont en commun, mais qui n'est reconnu qu'au maître. Et qu'il n'y a aucune raison, selon lui, pour qu'elle ne soit reconnue qu'au maître. Donc ce qu'il revendique, en fait, explique Camus, c'est qu'il soit reconnu dans sa dignité à égalité avec le maître. Or, si vous voulez revendiquer une égalité avec le maître, ça veut dire que vous reconnaissez que vous appartenez tous deux à la même humanité. Ce qui implique une chose, c'est que vous ne pouvez pas vous adonner à des moyens déshumanisants au nom de la lutte pour le regain de cette humanité, parce que si vous faites ça, vous niez finalement la dignité que vous essayez vous-même de gagner.
Le philosophe Nicolas Grimaldi, auteur notamment d'un livre intitulé « L'inhumain ».
Quiconque imagine un certain style d'humanité s'imagine par le fait même comme s'il secrétait le monde dans lequel un tel style peut se développer, de sorte que on a des sympathies et des antipathies spontanées qui définiront, détermineront nos comportements, nos engagements. De sorte que, entre les individus, comme entre les groupes, il s'agit d'une sorte de guerre des mondes. Mais ce sont des mondes imaginaires, ce sont des mondes intérieurs. Si mon ami d'enfance, avec qui j'ai vécu pendant 20 ans, ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose d'odieux à porter un brassard pour avoir un petit avancement, il est sorti du champ de mon humanité. Mais je suis sorti du champ de la sienne. Pour lui, l'inhumain, c'est moi. Et c'est comme cela que on peut exterminer des milliers de gens comme on exterminerait des rats. Parce que pour nous, enfin, c'est pas une question morale. Dératiser, c'est une question d'hygiène. Je ne sens plus leur humanité. De façon que tout le problème de l'inhumain devient celui de savoir comment puis-je ne pas reconnaître mon semblable dans l'autre. C'est tout simple. Il suffit d'avoir imaginé un style d'humanité incompatible avec le sien.
Nicolas Grimaldi, qui nourrit votre pensée, Marilyn Maheso, et que vous citez dans votre livre.
Oui, alors il y a deux choses qui me frappent dans cet extrait. La première, c'est une intuition qu'on trouvait déjà chez Lévi-Strauss et qui est aussi très importante pour moi et qui est résumée souvent par cette formule issue de sa conférence Race et Histoire. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Ça veut dire que la capacité à créer des barbares, c'est-à-dire à créer des hommes qui sont exclus à nos yeux de l'humanité parce que justement, comme le dit Nicolas Grimaldi, leur style d'humanité n'est pas compatible avec le nôtre, c'est la chose du monde la plus répandue. Tout le monde fait ça. Dans toutes les cultures, vous allez avoir des gens qui vont considérer que l'humanité, c'est eux, et que les gens qui ne correspondent pas à ce modèle-là ne peuvent pas être des hommes par conséquent. Il y a toujours quelqu'un, on est toujours le barbare de quelqu'un d'autre, en fait.
Le barbare, qui se dit en passant, est quelqu'un de banal, mais qui toujours nous surprend.
Oui. Aussi. Hein, oui, totalement. Ça, c'est quelque chose aussi qui est un invariant, je trouve, à l'échelle des géographiques et historiques. L'autre point qui me frappe dans ce que vient de dire Nicolas Grimaldi, c'est que l'acte de déshumanisation qui fait qu'on ne reconnaît plus l'autre comme un être humain parce que le style d'humanité qu'il a choisi n'est pas, selon nous, compatible avec le nôtre. C'est un acte qui passe par un travail intellectuel. C'est pas quelque chose qui se fait spontanément. Un enfant ne pense pas comme ça, par exemple. C'est quelque chose qui implique ce qu'on peut appeler un travail idéologique. Une formation idéologique de l'esprit. Et ça me ramène à un autre auteur qui est très important pour moi, qui est un historien, qui s'appelle Jacques Semmelin, et qui dans son livre
grand
Purifié...
Grand historien qui est au CNRS, qui a beaucoup travaillé sur les génocides.
Voilà, mais justement, dans son livre sur les génocides, Purifier et détruire, il explique comment les grands génocides de l'histoire n'auraient pas été possibles s'ils n'avaient été précédés par une préparation idéologique de la population. Ça veut dire que nous ne sommes pas naturellement faits pour penser telle autre catégorie de population comme étant de la vermine. C'est pour ça qu'il faut d'abord, avant de pouvoir rendre possible un génocide, c'est-à-dire quand même un acte de meurtre de masse qui ne peut pas passer inaperçu et qui donc risque quand même de soulever un certain nombre d'interrogations, au mieux un scandale généralisé au pire, il faut faire en sorte justement que le reste de la population considère que les personnes visées ne sont pas vraiment des êtres humains. Donc on va prendre le temps à la radio, à travers des affiches placardées dans les rues, dans tous les médias
disponibles. C'est ce qui s'est passé avec la radio d'Émile Colline au Rwanda.
Totalement, les Tutsis qui étaient décrits comme étant des cafards, c'est un terme qu'on retrouve d'ailleurs dans la propagande nazie pour désigner les juifs, à partir du moment où vous martelez ça suffisamment, ou ensuite vous expliquez que comme n'importe quelle vermine, ça s'insinue partout, donc vous n'avez peut-être même pas conscience qu'ils sont là, vous créez une angoisse. Et en plus, comme n'importe quelle vermine, si vous ne l'exterminez pas, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre le dessus, elle va ronger votre maison, et elle va finalement complètement massacrer votre quotidien. En gros, c'est tuer ou être tué, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Eh bien, une logique qui est une logique, finalement, d'attaque violente, qui est celle d'un génocide, arrive à se faire passer pour une logique d'autodéfense. Ce que nous mettons en place, c'est pour votre bien, parce que si on n'est pas là pour détruire cette vermine, c'est cette vermine qui nous détruira. Et c'est un phénomène qu'on trouve en dehors des génocides, dans toute propagande de guerre. Vous lisez la propagande française en 14-18, les Boches, c'était les barbares. Vous lisiez la propagande allemande en 14-18, les Français, c'était les barbares. Donc il y avait toujours le même mécanisme qui se mettait en place. Et ça, je pense que c'est important, c'est le point en fait sur lequel j'ai le plus travaillé, parce que souvent on a tendance à le minimiser, à considérer que les mots ça reste des mots et que quand même le plus grave et donc le plus intéressant, le plus important, ce sont les actes, ce sont les crimes, les génocides eux-mêmes. Mais on oublie à quel point ces actes-là, ces génocides, ne sont pas possibles si on n'a pas réussi auparavant à faire rentrer dans le crâne des gens que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était non seulement nécessaire, mais carrément légitime.
Alors revenons-en à Camus, si vous le voulez bien, Marilyn Maezzo, cette fois-ci avec, non pas avec l'étranger, mais avec la peste, et Albert Camus lui-même résume le livre.
La peste, pour la résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement, de la manière la plus banale et la plus simple, sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule, et peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir, en somme, deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles, et l'autre, au contraire, qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau.
Oran, une ville en apparence normale, une ville sans soupçon, qui est en même temps une ville un peu anesthésiée.
Oui, même pas qu'un peu, elle est totalement amorphe, on a l'impression, parce qu'elle est décrite notamment à cette époque où le soleil est tellement fort que tout le monde a envie de faire la sieste. C'est comme ça que c'est décrit au début, où les murs crépitent sous le soleil. C'est une ville sans soupçon. C'est une ville où on ne se pose pas de questions, c'est-à-dire on n'imagine pas que le pire puisse arriver. Donc c'est la ville parfaite pour que les drames arrivent, parce que justement on ne les voit pas venir, donc on ne risque pas d'essayer de les faire reculer avant qu'ils arrivent.
Il n'y a qu'un personnage, c'est Tarou qui lui, il est lucide, il garde les yeux ouverts, c'est un personnage essentiel hein, dans le
livre. Oui, Tarou, c'est celui qui a compris avant tout le monde et qui avait compris avant d'arriver à Oran. C'est celui qui dit « j'étais malade bien avant de connaître cette ville ». Et donc c'est celui qui nous fait comprendre ce qui n'est qu'à l'état d'intuition avant qu'il en parle, à savoir que le roman est un roman en trompe-l'œil, en un sens. Puisque vous avez donc, comme l'explique très bien Camus, hein, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, une ville, et puis d'un seul coup, des rats se mettent à arriver. On croit que c'est un problème sanitaire, donc on va les supprimer, tout va bien se passer. Puis ils sont de plus en plus nombreux, puis ils commencent à mourir tout seuls. Et puis après les rats, ce sont les humains qui développent des symptômes spectaculaires, et à partir de là, on finit par comprendre que c'est une peste. Bon. Mais Tarou explique qu'il était malade avant d'arriver dans cette ville. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que ce qui se passe dans le roman, et surtout ce qu'on entend à la toute fin du roman, spoiler, hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Elle reste endormie dans les malles, les vêtements, et elle attend le bon moment pour se réveiller. Ben, ça n'est pas simplement une mise en garde pour l'avenir, une façon de dire, ok, vous avez réussi à vaincre l'épidémie de peste, maintenant vous pouvez faire la fête, mais attention, elle peut revenir. C'est aussi une façon de dire, vous avez cru que le début du roman, c'était le début de l'épidémie, mais en fait, pas du tout. Les gens sont malades, les oranais, comme n'importe qui, sont malades depuis bien longtemps. Et le moment où les premiers rats arrivent, c'est qu'il est déjà trop tard.
Ils continuent à vivre comme si de rien n'était.
Voilà, parce que c'est l'enjeu principal pour les oranais. Quand les rats commencent à arriver, et même quand les gens commencent à tomber malades, c'est de sauver les apparences, pourrait-on dire. C'est d'essayer de conserver ce qui est le plus précieux à leurs yeux, et qui est énoncé dès la deuxième page du roman, à savoir leurs petites habitudes. Le narrateur de La Peste explique, quand il doit caractériser les oranais, il dit que finalement ce qui les caractérise, c'est rien de spécial, ils sont comme n'importe qui, c'est-à-dire que, je cite, ils s'ennuient et ils s'attachent à prendre des habitudes. Prendre des habitudes, ça a l'air parfaitement anodin. N'importe qui prend des habitudes, c'est même vital. Vous imaginez si chaque matin on se levait et on devait réinventer à zéro absolument tout ce qu'on fait dans une journée.
Au contraire, je dirais que les habitudes, même, je pense à l'odeur du café, par exemple, oui, c'est quelque chose de réconfortant.
Oui, voilà, c'est quelque chose de réconfortant, ce qui fait qu'elles ont une utilité et même une nécessité dans une certaine mesure. Mais c'est aussi ce même point qui fait qu'elles ont une dangerosité, parce que quand quelque chose est réconfortant, vous allez avoir d'autant plus de mal à vous en séparer. Le problème, c'est que quand une habitude fait que, comme vous l'avez si bien dit, on finit par être anesthésié, on finit par ne plus forcément voir ce qu'on a sous les yeux, qui crève les yeux et qui menace. On va potentiellement préférer s'attacher aux habitudes au point de vouloir nier l'évidence d'une maladie grave qui est en train de se développer, plutôt que de faire quelque chose pour l'enrayer.
Alors la peste, maladie grave, évidemment, je vais vous poser une question sur le Covid. Le Covid, oui, était là avant le Covid ?
Le Covid était-il là avant le Covid ? Vous avez 4 heures.
Non, là malheureusement, on ne va pas pouvoir vous donner 4 heures.
Yeah. Le Covid était-il là avant le Covid? Alors bien sûr, quand je dis que la peste était là avant la peste, c'est au sens métaphorique du terme, puisqu'il y a différents niveaux de lecture de la vue de Camus lui-même. Il y a plusieurs niveaux de lecture au roman. Dans le cas du Covid, on pourrait dire que sur le plan de lecture littéral, non. Le Covid est arrivé parce que, pour des raisons accidentelles, c'est en tout cas ce qu'on pense maintenant, et ensuite est arrivé ce qu'on sait. En revanche, si on doit de la même manière essayer de le lire à plusieurs niveaux, on peut considérer que la gestion de la crise du Covid était là avant, était écrite un peu avant l'arrivée du Covid, qu'elle n'est pas venue de nulle part, que par exemple le manque de lits ou la saturation des réa ou l'absence de masques et de gel hydroalcoolique au début, ils étaient tous symptomatiques d'une chose, c'est ce que le narrateur appelle l'absence de soupçons. C'est si vous voulez à la fois l'avantage et l'inconvénient des pays développés, c'est que quand on a le luxe de pouvoir vivre dans un pays avec un système sanitaire, un système médical aussi bon globalement que le nôtre, on finit par s'imaginer que le pire ne peut pas arriver, qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation où des choses aussi élémentaires que les mesures prophylactiques telles que avoir un masque ou avoir du gel hydroalcoolique, ça va devenir un problème et on va connaître ce qui est pourtant banal dans d'autres pays, à savoir des pénuries.
Mais ça veut dire qu'on ne veut pas voir, et ça ressemble un petit peu à une sorte de déni, ça.
Oui, c'est un réflexe, j'ai envie de dire, qui est un peu naturel. On ne veut pas voir parce que personne, je pense, n'a envie de vivre au quotidien avec la peur d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui serait, on a une maladie qui arrive, on sait pas comment la gérer et ça va être une catastrophe. On a envie de pouvoir faire confiance à la science et surtout à la capacité qu'ont les médecins de nous prendre en charge et de nous soigner quoi qu'il arrive. Donc le Covid, ça a été, de ce point de vue-là, évidemment, je suis pas en train de dire que c'est une chance parce que je ne fais pas partie des gens qui essaient de trouver du sens là où il n'y en a pas. En revanche, ça a été un révélateur, je pense, important d'une vérité qu'on a tendance à vouloir oublier justement pour privilégier le confort, à savoir que la prévisibilité absolue n'existe pas. Il y a toujours de l'imprévisible et il y a toujours, si vous voulez, des angles morts dans notre manière de gérer tout dans l'existence, y compris les maladies et les épidémies, et que de ce point de vue-là, on peut jamais être totalement préparé et que donc il faut toujours être en un sens préparé à ne pas être préparé.
Marilyn Maizeau, je rappelle que vous êtes donc l'invitée de L'Heure Philo ce soir pour La Petite Fabrique de l'Inhumain, un livre absolument passionnant publié aux éditions de l'Observatoire. Alain Souchon sur France Inter, un vieux tube, c'est déjà ça.
Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. De plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces djellabas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain, suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. We'll be right back. suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine, coule, oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève, oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est
Marilyn Maréiseau, quelle peut être aujourd'hui la responsabilité des médias et de cette caisse de résonance dans la petite fabrique de l'inhumain ?
Cette responsabilité, elle passe d'abord, à mon sens, dans les choix qui sont faits, dans un certain nombre d'émissions, dans un certain nombre de journaux, le choix des critères qui font qu'on choisit tel invité plutôt que tel autre. Et qui dit choix dit critères. Or, ce qu'on peut remarquer, c'est que les critères qui font qu'on choisit tel ou tel invité ou même tel ou tel sujet, ça n'est pas forcément leur pertinence ou leur intérêt pour la population, c'est plutôt leur potentiel de buzz. Vous n'allez pas forcément choisir le plus pertinent sur un sujet, que ce soit la vaccination, que ce soit le conflit syrien, que ce soit n'importe quel sujet. Vous allez choisir celui dont l'expérience a montré que, ne serait-ce que parce qu'il provoque l'inimitié, va faire parler de lui ensuite sur les réseaux sociaux, ce qui va donner lieu à de nouveaux articles et qui donc va booster les vues de l'émission en question. Et ça, c'est dangereux parce que ce que ça produit comme effet, parmi tous les effets délétères que ça peut produire, je pense que le pire, c'est ce que j'appellerais une forme de déconnexion avec la réalité. Quand vous êtes dans un moment où on met sur le même plan, sur un plateau, les opinions et les connaissances, quand vous ne faites aucune différence entre quelqu'un qui arrive pour, j'ai envie de dire, exprimer, mais parfois c'est aboyer, son opinion, sans la sourcer d'une quelconque manière.
C'est tenté qu'on entende parfois les opinions des uns des autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, tout le monde parle ensemble, donc
voilà,
on n'entend rien.
Voilà, donc on n'entend rien. C'est même un peu le principe parfois, mm-hmm. Et qu'à côté de ça, vous avez quelqu'un qui essaye d'exprimer un savoir établi sur le sujet, chiffre à l'appui ou source à l'appui, le message que vous faites passer aux téléspectateurs ou aux auditeurs selon le type d'émission, c'est finalement la vérité, il n'y en a pas ou ça compte vraiment peu parce que tout se vaut, quoi. Quelle est la conséquence de ça ? La conséquence de ça, notamment, c'est qu'on a une époque de défiance extrême vis-à-vis des autorités scientifiques dans un contexte où ce genre de défiance est quand même un peu embêtante parce que nous sommes en pleine épidémie. Quand vous créez ce genre de défiance, ça donne notamment une montée des antivax avec tous les dangers que l'on connaît. Ça donne aussi une montée
De propos haineux, de propos complotistes.
De propos complotistes. Et ce qui est le paradoxal, c'est que vous allez avoir parfois dans les mêmes émissions des séquences consacrées à l'inquiétude vis-à-vis de la montée du complotisme, sans qu'à aucun moment il y ait une remise en question sur le rôle qu'on a pu jouer là-dedans, si vous voulez. Mmh. Comment voulez-vous que le complotisme ne monte pas, sachant que le complotisme, justement, est fondé sur une perte de repères intellectuels. On ne sait plus vraiment à quoi se fier, on ne sait plus reconnaître un journal sérieux d'un journal qui ne l'est pas, on ne sait pas comment faire pour reconnaître une prise de parole fiable d'une prise de parole qui ne l'est pas, et donc on finit par se dire que, quitte à ne plus savoir où aller, autant choisir son propre chemin, et vous avez au milieu de ça des charlatans qui débarquent avec des théorie qui explique tout, clé en main, et qui donne une vision du monde où absolument tout est clair. Forcément, ça va être le genre de choses qui peut séduire dans un tel contexte. Donc je pense que c'est important parfois de comme le dit l'expression anglaise, connect the dots, c'est-à-dire faire le lien entre ces différents phénomènes, entre la logique du buzz et de la confusion qui a tendance à s'imposer dans certaines émissions et la montée des phénomènes comme le complotisme.
Votre livre est dédié à Samuel Paty. Il faut rappeler que c'est un professeur d'histoire géo qui a été décapité par un fanatique. C'était en octobre 2020. Et il avait montré en l'occurrence à ses élèves des dessins de Charlie Hebdo jugés blasphématoires. Comment est-ce que vous démontez ce mécanisme qui a fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir avant?
Parce que j'ai essayé de retracer une séquence que j'ai voulu retracer qui a mené à la mort de Samuel Paty. Ça n'est pas pour dire qu'il y a d'autres coupables de la mort de Samuel Paty que son assassin. C'est plutôt pour essayer d'expliquer comment on a pu ne pas voir venir ce qui pourtant nous sautait aux yeux. Mmh. Et ce que j'ai montré notamment, c'est que tous les discours qui consistent à assimiler dessins qui caricaturent la religion et haine des musulmans, tous les discours qui consistent à dire que la liberté d'expression doit s'arrêter à ce qui blesse la sensibilité. Mais quelle sensibilité? Quand on parle de la sensibilité des musulmans, est-ce que c'est pas une manière d'essentialiser plusieurs milliards d'individus en considérant que parce qu'ils sont musulmans, ils sont tous de la même façon, si vous voulez. J'ai essayé de retracer tout ça, et notamment, je me suis intéressée à la manière dont ce discours qui consiste finalement en un sens incriminer par extension les dessinateurs, en disant bien sûr que rien ne justifie le meurtre des dessinateurs Charlie Hebdo ou l'assassinat d'un enseignant, mais le fameux oui mais quand même on se rend bien compte qu'à chaque fois que ces caricatures apparaissent il y a un drame, donc est-ce que peut-être si on arrêtait enfin de les montrer le problème ne serait pas résolu. Il y a plein de personnes qui ont dit ça pendant un moment. Il y a eu par exemple Yann Moix qui l'a dit au moment des procès contre Charlie Hebdo, c'est quand même irresponsable de faire quelque chose comme ça. Et cette logique-là dont Charles parlait en prenant l'exemple de la jupe trop courte, l'idée qu'un dessin puisse provoquer un terroriste, c'est l'équivalent à ses yeux, et c'est pas totalement faux, de l'idée qui consiste à dire qu'une jupe trop courte, ça provoque un peu le violeur quand même. On l'a cherché d'une certaine manière. Or, ce qu'on sait, parce que c'est quand même, ça fait quand même des années maintenant que ce type de drame se produit, ce qu'on sait, c'est que les terroristes n'ont jamais eu besoin d'excuses pour commettre leurs actes, qu'ils n'ont jamais eu besoin qu'on leur désigne des cibles ni qu'on les provoque, et que dans plein de pays dans le monde, et en particulier dans des pays musulmans, ils assassinent sans qu'il y ait la moindre caricature, le moindre blasphème, et que donc ces explications a posteriori qui visent à finalement s'incriminer soi-même, mais pour mieux se donner l'illusion qu'on a un moyen très facile de mettre un terme à tout ça, c'est non seulement un mensonge, mais c'est en plus dangereux parce que ça a tendance, si vous voulez, à mettre des cibles sur le dos des potentielles victimes. Et dans le cas de Samuel Paty, ce qui s'est passé, c'est que, rappelons-le, il a fait un cours, il a voulu montrer des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves dans un cadre de cours sur la liberté d'expression, pour expliquer ce que c'était. Et une élève, une collégienne, a dit à son père que ça avait été traumatisant parce qu'il avait stigmatisé les musulmans en leur demandant de lever la main et de sortir pour qu'ils puissent montrer les dessins. Or, on s'est rendu compte ensuite que cette collégienne n'avait pas assisté au cours puisqu'elle était absente ce jour-là et qu'elle avait donné cette excuse à son père pour justifier son absentéisme. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement frappant parce que, quand vous êtes enseignante, les excuses des élèves pour un devoir qui n'est pas rendu ou un cours qui est séché, généralement, il y en a plein. Vous avez mon réveil n'a pas sonné, mon chien a mangé mon devoir. Bon, on connaît, ça fait sourire. Là, on a quand même une élève qui, en cherchant une excuse pour ne pas se faire inquiéter, est allée chercher notre professeur est islamophobe, il a voulu stigmatiser les musulmans. Une élève de cet âge-là, elle n'a pas trouvé ça toute seule, si vous voulez. Elle est allée puiser ça dans un discours qui est diffusé de manière de plus en plus facile dans certains médias, chez certains intellectuels, chez certains universitaires. Et c'est comme ça que la mécanique s'est enclenchée. Et à partir de là, le tueur qui a été repéré sur les réseaux sociaux, qui avait été signalé par des internautes, il s'est rien passé. Signalé par ses proches qui avaient repéré un changement de comportement, il s'est rien passé. Mmh. Vous avez le père de l'élève qui balance le nom du professeur en ligne et qui appelle en fait à le faire virer. Il n'y a pas vraiment eu de réaction musclée. Il arrive avec un imam intégriste devant le collège pour faire pression à nouveau. Là, pareil, il n'y a pas eu de sonnette d'alarme qui est arrivée. On a même considéré que Samuel avait besoin d'un rappel à l'ordre sur ce qu'est la laïcité. Donc, on a cru ce qu'avait dit la collégienne sans rien vérifier. Et ça, c'est quelque chose qui paraît complètement aberrant, au moins après Charlie Hebdo. Mais j'ai envie de dire même avant ça, parce que Charlie Hebdo, l'attentat de 2015 a été précédé par celui de 2011 au cocktail Molotov. Avant ça, il y a eu ce qui s'est passé au Danemark, il y a eu le meurtre de Théo Van Gogh, il y a eu le meurtre d'un prêtre catholique italien dans une église en Turquie. Il y a eu plein d'attaques comme ça, ouais, qui sont produites. Et on a l'impression qu'à chaque fois, si vous voulez, il y a des signaux qui sont quand même assez marquants parce qu'ils sont récurrents et qu'on a une capacité sur surprenante à les ignorer.
Il était psychiatre, il était écrivain, combattant anticolonialiste, il était né à Fort-de-France, indocile, sa courte vie durant, Frantz Fanon.
L'habitude de considérer le racisme comme une disposition de l'esprit, comme une tare psychologique, doit être abandonnée. Mais l'homme visé par ce racisme, le groupe social asservi, exploité, désubstantialisé, comment se comporte-t-il? Quels sont leurs mécanismes de défense? Dans une première phase, on a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. L'oppresseur, par le caractère global et effrayant de son autorité, en arrive à imposer à l'autochtone de nouvelles façons de voir, singulièrement un jugement péjoratif à l'égard de ses formes originales d'exister. Cet événement, désigné communément aliénation, est naturellement extrêmement important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d'assimilation.
Frantz Fanon, dont il faut lire, hein, c'est pas vous qui allez me contrarier, Marilyn Maezzo, Peau noire, masque blanc. Hein.
Oui, dans Peau noire, masque blanc, il analyse de façon magistrale les mécanismes de ce qu'on peut appeler l'intériorisation du racisme. La manière dont le racisme ne se contente pas d'avoir une incidence sur la politique, l'économie, la culture dans un pays, mais aussi sur les esprits et les corps des personnes qui le subissent. Et ce qu'il montre très bien, c'est que les phénomènes de déshumanisation qui sont induits par le racisme sont tellement insidieux que ça ne consiste pas simplement à voir des individus blancs, en l'occurrence, qui nient l'humanité d'autres individus parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau qu'eux. Ça produit même une sorte de racisme, disons, portatif, j'ai envie de dire, sans aucune blague là-dedans, qui fait que la personne déshumanisée, la personne noire en l'occurrence, n'a même plus besoin d'avoir une personne blanche pour lui rappeler qu'il est un sous-homme, parce que lui-même se le rappelle à lui-même, et donc en arrive à vouloir nier absolument tout ce qui peut rappeler justement sa différence. Ce qu'il analyse notamment très bien, c'est ce que veut dire le titre, hein, peau noire, masque blanc. Nous avons la peau noire et on a tellement peur des réactions que ça peut produire et des conditions de vie que ça nous impose que on a envie de se coller à un masque blanc, de s'assimiler de façon à pouvoir vivre comme les autres, tellement c'est irrespirable quand on ne le fait pas. Il explique notamment la façon dont le fait d'épouser un homme blanc pour une femme noire, ça peut être une forme de libération parce que c'est anoblissant, si vous voulez, ce qui est horrible. Hein. L'idée, c'est qu'épouser un homme noir, c'est se rabaisser vers une race inférieure. Donc, il y a l'idée qu'on s'élève en épousant un homme blanc. Ça marche aussi dans l'autre sens avec un homme noir et une femme blanche. Et il y a aussi le phénomène de colorisme, hein, qui montre ça très bien. Le colorisme, c'est le racisme, mais à un degré, le racisme au carré, à l'intérieur même d'une race, hein, au sens sociologique du terme, de considérer que les personnes qui sont noires, mais à peau plus claire, sont moins inférieurs que les personnes qui sont noires à peau plus noire. Et ça, c'est des phénomènes qu'on comprend, je pense, bien mieux quand on a lu Fanon.
Mais vider l'autre de sa singularité, par exemple, Marilyn Maezzo, est-ce que c'est pas ce qu'on fait un petit peu avec les migrants, même un peu beaucoup ?
Avec les migrants, oui. C'est terrible que vous me posiez cette question parce que il y a une heure, j'ai terminé un texte là-dessus. C'est exactement ce qui se passe quand on ne parle pas de ces individus qui sont des femmes, des hommes, des enfants, des familles qui sont arrachées à leur maison, qui partent dans la nuit avec rien et qui vont sur la mer en sachant pertinemment qu'ils risquent d'y finir ou qui se retrouvent dans des camps qui sont parfois brûlés où le peu qu'ils avaient, on leur enlève. Si vous appelez ça non plus, enfin si au lieu de raconter ces histoires-là et de mettre les gens face à la réalité de ce que ça incarne, vous parlez de menaces, vous expliquez qu'ils viennent pour nos allocations, vous expliquez que ce sont des violeurs, comme un certain polémiste que je ne nommerai pas le fait régulièrement, vous employez un vocabulaire technique, vous dites flux migratoire, vous dites problème migratoire, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que vous supprimez la dimension humaine de ces personnes. Et qu'est-ce que ça facilite? Ça facilite le fait de pas tellement avoir à y penser au quotidien, de pas vraiment avoir à s'imaginer ce que c'est pour une famille entière, enfants compris, de tomber d'un radeau et de se noyer dans l'indifférence générale. Donc je pense que c'est une forme de déni, effectivement, qui n'est qu'une parmi d'autres dans toutes les formes de déni qu'on peut avoir pour aider à s'endormir la nuit. Mais celle-là est particulièrement violente, parce que elle facilite la mort de milliers d'individus dans l'indifférence totale.
Quand la peste est dans l'air, Marilyn Maezo, comment est-ce qu'on continue à respirer?
C'est bien le problème, c'est qu'on ne peut pas retenir sa respiration trop longtemps, donc on est obligé de la respirer. Quand la peste est dans l'air, je pense que, et c'est Tarou une fois de plus hein, qui le dit le mieux, je pense que la seule
Tarou,
manière...
Tarou, donc un personnage de la peste.
La meilleure manière, c'est, comme il le dit, de se surveiller et de faire en sorte, dans une minute d'attention, de ne pas coller l'infection et de la respirer dans le visage de l'autre. Je pense que l'attention, de ce point de vue-là, est la clé. Alors attention, hein, l'attention n'est pas l'hypervigilance. Il est impossible à n'importe quel individu normal de faire absolument attention à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait en permanence. Il finirait la journée épuisé, il pourrait pas se lever le lendemain. Non, l'attention, ça veut dire la capacité à prendre conscience justement de nos biais, de nos dénis, du type de mots qu'on utilise justement pour ne pas avoir à voir certains phénomènes dangereux pour ce qu'ils sont. Et au-delà de l'attention, même si je pense que c'en est un dérivé, l'apprentissage. Je pense que l'un de nos gros problèmes, et on le voit dans la peste, c'est que nous avons énormément de mal à apprendre, à tirer les leçons de nos erreurs passées. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la peste, ça consiste à recommencer, dit Rambert, le journaliste, un autre personnage de la peste. Donc voilà, je dirais que l'attention à ce que nous disons et aux autres, l'attention à la manière dont nous rapportons au monde et aux événements, et puis tenter de faire en sorte que nos erreurs et nos compromissions servent au moins à quelque chose à l'avenir.
Et être inquiet, au fond, c'est un bon garde-fou.
C'est pour moi une des plus belles invention, je ne sais pas qui l'a inventé, si c'est Mère Nature, si c'est Dieu, j'en sais rien, mais peu importe. L'inquiétude, c'est une qualité philosophique essentielle parce que c'est le contraire de l'apathie et de ce que vous appelez tout à l'heure l'anesthésie. L'inquiétude, c'est le fait de n'être jamais totalement endormi, la capacité à garder toujours, ne serait-ce qu'un soupçon de vigilance, j'allais dire, j'ai pas choisi volontairement cette expression, mais elle est belle, je trouve.
Oui, oui.
Un soupçon de vigilance qui fait que même dans les situations où on peut être tenté de baisser la garde, on aura toujours la capacité d'entendre les signaux.
Merci Marilyn Maezo. Je rappelle donc le titre de votre livre, La petite fabrique de l'inhumain. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.
Merci à vous.